Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
C'est la fin des moteurs thermiques 2035. Ça y est, les 27 États membres ont décidément approuvé le projet de la Commission de réduire à zéro les émissions de CO2 pour les voitures neuves en Europe. On en parle ce matin avec Laurent Le Tourneur. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Cécile. Bonjour.
Vous êtes directeur marketing et relations publiques Land Rover et Jaguar. 2035, c'est très court pour certains constructeurs. Pour Land Rover et Jaguar, finalement, vous aviez déjà anticipé l'arrivée de l'électrique et même avec une autre hybridation, on en parlera dans quelques instants.
Tout à fait. Effectivement, nous avons dévoilé notre stratégie Jaguar Land Rover il y a maintenant un an avec le programme Reimagine qui permet d'effectuer cette transition vers le tout électrique puisque l'intégralité des gammes Jaguar à partir de 2025 puis Land Rover à l'horizon 2030 sera exclusivement en électrique.
Alors, vous avez développé comme... vous êtes l'un des premiers constructeurs, Land Rover Jaguar, sur le segment premium, à avoir développé ce qu'on appelle le Flex Fuel, qui permet forcément d'aller à l'utiliser le E85.
Tout à fait. Donc, c'est une carburation, on va dire, alternative. On est dans une phase de transition. Et effectivement, on parle beaucoup de l'électrique, on parle beaucoup des PHEV, des plug-in hybrides, mais il y a aussi d'autres carburations possibles. Et c'est pour ça que nous avons investigué sur le Flex Fuel. Pourquoi le Flex Fuel? Puisque déjà en Brésil, les véhicules qui sont commercialisés pour Jaguar Land Rover sont quasiment exclusivement au Flex Fuel. Donc on a déjà cette technologie à l'intérieur de nos sociétés. Et le Flex Fuel est pour nous une carburation alternative avec beaucoup, beaucoup d'avantages.
C'est quoi? C'est une pente douce finalement pour aller vers, vers une autre...
C'est une possibilité de dire aussi à notre clientèle qu'on peut avoir une possibilité de rouler aussi autrement tout en ayant des vertus écologiques très démontrées. Je donne deux chiffres que j'aime bien citer. Le premier, c'est qu'il y a 90% de particules en moins. Et le deuxième chiffre, grâce à la carburation Flex Fuel, vous avez 60% de baisse d'émissions à effet de serre.
Le tout électrique, donc, d'ici 2035, c'est demain. On a déjà une première enquête cabinet Alix Partners qui affirme, lui, que la voiture électrique sera majoritaire à partir déjà de 2028, dans 5 ans, avec en parallèle... Eh bien, le bonus écologique qui est maintenu jusqu'à la fin 2022. Ça a joué beaucoup vraiment dans cette transition, le fait qu'on accélère finalement cette marche en avant.
De toute façon, je pense personnellement que les pouvoirs publics doivent aussi accélérer cette mutation, cette transition vers le tout électrique. Donc oui, le bonus écologique va dans le bon sens, même si nous, pour les véhicules de nos gammes, nous ne sommes pas concernés par le bonus écologique. Nous l'y étions au début, mais malheureusement, maintenant, le prix, c'est à partir de moins de 50 000 euros pour avoir un bonus écologique. Mais oui, il est évident que les pouvoirs publics doivent aussi nous aider, l'ensemble des constructeurs, à réussir cette transition vers l'électrique.
Alors, il y a plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on parle de ce malus aussi, le malus au poids. On parle de ces 1800 kilos, c'est ça? Et c'est 10 euros par kilo, si je ne m'abuse.
Voilà. Vous connaissez bien
Je connais bien.
Bravo.
Est-ce que ça veut dire que vous rentrez... Alors vous êtes exempté de ce malus. Qu'on explique pourquoi?
Parce que la règle sur le malus au poids, à partir du moment où vous avez une autonomie de plus de 50 km, 51 km en consommation mixte, vous avez une exemption du malus au poids. Donc nos véhicules aujourd'hui en PHEV, en plug-in hybride, permettent justement d'atteindre ce niveau d'autonomie qui nous exempte de ce malus au poids.
Qu'est-ce qu'on a comme modèle chez vous justement en PHEV aujourd'hui, en hybride?
En hybride, on a quasiment l'intégralité de la gamme. On commence avec les véhicules Range Rover Evoque, Discovery Sport et Jaguar O-Pace, les plus petites en termes d'accessibilité, jusqu'au Range Rover Sport et au nouveau Range, qui ont cette disposition en plug-in hybride avec une autonomie de 113 km. Donc ça, c'est vraiment important parce que 113 km, vous avez 70% aujourd'hui, statistiquement, 70% des trajets journaliers permet avec 70 km d'être fait. Donc là, quelqu'un qui a vraiment cette conscience de pouvoir recharger, même sur une prise domestique, puisqu'il faut à peu près 8 heures pour pouvoir la recharger sur une prise domestique, vous permet d'avoir tous les jours une conduite 100% électrique.
Vous parlez de prise domestique, il y a aussi les bornes électriques qui sont importantes. On en est où aujourd'hui? Est-ce que on arrive à un stade où finalement ça devient intéressant d'une certaine manière?
Oui, vous voyez tous l'explosion du prix de l'essence. Donc obligatoirement, on cherche des solutions alternatives. Donc vous avez parlé du Flex Fuel, c'était une bonne solution avec un litrage à 0,80 euros du litre. Donc c'est plutôt intéressant quand on fait
surtout
la facture
moment,
à la pompe.
C'est ça.
Maintenant, oui, les bornes se développent. De plus en plus de particuliers cherchent à équiper leur logement d'une borne 7 kW, la borne d'accessibilité. Ouais. Après, maintenant, c'est comme tout. Hein, les constructeurs se sont engagés vers l'électrification. Il faut maintenant que les pouvoirs publics, l'Europe, accélèrent cette mutation en nous dotant, en ayant une capillarité du réseau français avec beaucoup plus de bornes accessibles.
C'est là qu'il faut accélérer
marche,
vraiment davantage là-dessus.
Bien évidemment, sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut que les deux développements se fassent en parallèle.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, les constructeurs vont devoir aussi fabriquer peut-être leurs propres bornes électriques, leur propre réseau? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir à l'avenir?
Bah écoutez, il y a déjà eu des alliances avec le réseau Unity où beaucoup de constructeurs participent à ces différentes alliances. Maintenant, on n'est qu'au début de l'histoire, on est en train de l'écrire. Et je pense qu'effectivement, ce genre de partenariat va se développer dans le futur obligatoirement.
Sur l'électrique, aujourd'hui 2035, c'est demain. Hein, et ça veut dire que bon, bah voilà, c'est fini pour les autres. En tout cas, on pense que c'est terminé pour les autres carburations. Est-ce qu'aujourd'hui, à quel moment vous serez prêt en tout électrique chez Land Rover et Jaguar?
Alors déjà, chez Jaguar, il faut rappeler que nous sommes déjà 100% électriques depuis 2019. Jaguar I-Pace a été le premier véhicule créé de A à Z pour recevoir les batteries créées par Jaguar sur le marché, on va dire, premium, qui a été élu en 2019 plus belle voiture de l'année, plus le véhicule vert de l'année. Enfin, on a reçu toutes les récompenses possibles et imaginables. Donc on a déjà un pied dedans et on a démontré notre savoir-faire. Maintenant, on veut aller encore plus loin, puisqu'on a annoncé que le Range Rover et le Range Rover Sport, donc vraiment le fleuron de nos marques Land Rover, seront 100% électriques à partir de 2024. C'est demain.
Est-ce qu'on ne perd pas un peu le plaisir de la conduite? C'est ce que demande tout le monde. Mais finalement, on se rend compte que l'électrique, c'est un grand avantage, c'est que ça démarre tout de suite.
Écoutez,
c'est hyper réactif.
J'ai le plaisir de rouler en électrique depuis maintenant 18 mois. Je ne reviendrai pas en arrière vis-à-vis d'un moteur thermique parce que, comme vous le disiez à juste titre, l'accélération, elle est immédiate. Le bruit, l'absence de bruit. Et je trouve que le fait que le véhicule, justement, a cette capacité avec le poids des batteries, fait que l'inertie est vraiment très forte sur cette voiture-là, on a cette capacité de pouvoir bien suivre la route. Et donc, par rapport à ça, sincèrement, l'expérience de conduite est assez bluffante.
J'aimerais savoir, historiquement, qu'est-ce qui a fait que du côté de Jaguar Land Rover, on ait décidé de faire ce tournant, peut-être avant certains, de l'électrique? Il y a une raison
oser,
à cela.
C'est vrai, fallait oser.
C'était à Paris.
C'est peut-être ce qu'on appelle une vision stratégique. On savait aussi à un moment donné, ça s'est pas sorti du jour au lendemain, cette transformation. Ouais. Donc au contraire, on a voulu être avant-gardiste, commencer à travailler. Je vous rappelle aussi, vous l'avez peut-être vu, c'est que nous sommes bien impliqués dans la Formule AI, Formule A électrique, où Jaguar opère depuis maintenant 5 ans.
Qui est la Formule 1 électrique.
La Formule 1 de l'électrique, mais qui nous permet justement, grâce à cette technologie ultra-sportive, d'utiliser tous les bienfaits de la Formule I dans nos véhicules de série. Donc on est vraiment inscrit dans cette stratégie et oui, effectivement, on a été précurseur, mais voilà, le meilleur est à venir.
Une question aussi, les vacances qui se rapprochent, justement sur les gammes que vous proposez, quel modèle pour quel profil finalement?
Écoutez, on a une gamme qui est assez variée, puisque, comme vous le disiez, on vous propose du flex-fuel, on propose du plug-in hybride, on vous propose également des véhicules électriques. Maintenant, si j'avais un choix personnel, j'opterais pour le flex-fuel. De par, je vous ai dit, les vertus,
les
vertus écologiques dont je vous ai parlé, de par également le prix à la pompe, de par également le fait que c'est un produit, effectivement, de manière écologique. Et puis aussi, c'est un produit franco-français, puisque 95% de l'éthanol qui est consommé sur le marché français provient d'une production française. Donc, écoutez, c'est le petit cocorico du matin. J'opterai pour le flex-fuel, tout en sachant également que merci aux stations essence qui sont en train de développer le maillage au niveau de l'E85, puisque nous avons près de 30% des stations aujourd'hui qui proposent l'E85. Donc, écoutez, pour moi, c'est gagnant-gagnant.
Eh ben, merci beaucoup, Laurent Le Tourneur, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur marketing, relations publiques, Land Rover Jaguar. Merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.
Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, dans quelques instants, les grands débats avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois et Éric Revel. Et pour l'instant, c'est Éric Revel tout seul. Bonjour Eric.
Bonjour Eric Revel.
Chère madame, chère mesdames, Muriel, Cher Benjamin, chers auditeurs bien-aimés.
Et on citronne, non ?
Non, chers auditeurs bien-aimés.
Ça sent la lèche, allez, on y va.
Non, je ne sais plus, il y avait un comique. Ben, je ne suis pas comique du tout.
Bon, on revient à l'actualité, mon cher Eric, puisque là on s'égare. C'est aujourd'hui l'élection pour la prestigieuse présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et la bataille politique promet d'être âpre parce que les enjeux sont importants.
Oui, alors à ma gauche, Éric Coquerel pour la France Insoumise et la NUPES, ancien membre d'ailleurs de la Commission des Finances dans la précédente législature, bon, voilà, il sait de quoi il parle. Et puis à ma droite, Jean-Philippe Tanguy pour le RN. Lui, il est ESSEC et Sciences Po. Hein. C'est un jeune, tête bien faite. Alors, Coquerel par favori. La majorité ensemble, macronise, vous le savez, Fabien Roussel en parlait, ne prendra pas part au vote, parce que officiellement, pour respecter la tradition républicaine qui veut que cette commission des finances soit présidée par un membre de l'opposition. Et puis, du côté des LR, alors là, c'est quand même très compliqué à suivre. Vous vous souvenez que Gérard Larcher, président du Sénat LR, avait expliqué que lui, il voyait bien le RN remporter cette présidence de la Commission des Finances. Mais depuis, disons que le discours des LR est un tout petit peu plus confus, puisque Larcher a expliqué hier sur LCI qu'il ne souhaitait pas que des députés de son camp votent pour un président de la Commission des Finances qui serait RN. Vous voyez, donc, ce serait une bonne chose que ce soit RN, mais à condition que vous ne votiez pas pour lui. Ouais. Donc c'est un peu dur à comprendre.
Ouais. Bon, en tout cas, on parlait des enjeux économiques. Quels sont-ils, Eric, là ?
Alors, je vais faire, vous savez, c'est thèse-antithèse. Je vais d'abord faire des enjeux macro, macroéconomiques, très importants, énormes, parce que le président de la Commission des Finances, il a accès à tous les documents concernant les finances publiques, il est informé comme le ministre de l'économie, il a accès à tous les documents de Bercy, et évidemment, les documents de Bercy, mon cher Benjamin, ne concernent pas seulement le niveau des déficits ou le niveau de la balance commerciale.
Des enjeux fiscaux aussi qui intéressent les entreprises, mais également les contribuables.
Et ben voilà. Là, c'est de la politique et c'est un enjeu très fort, parce que le président de la Commission des Finances. Il a accès aussi à toutes les situations fiscales des entreprises et des particuliers, à l'identité de ceux qui sont rattrapés par le fisc pour avoir procédé à l'évasion fiscale à l'étranger. Il a accès aux données des accords aussi, parce qu'il y en a entre le fisc et les contribuables pour régulariser des situations fiscalement délictueuses. Vous l'avez compris, le futur président, qu'il soit NUPES ou qu'il soit Rassemblement National, aura entre les mains potentiellement des bombes politiques, même si le droit de réserve, évidemment, est de mise quand vous êtes président de la Commission des Finances, en tout cas officiellement. Mais quel parti de gauche radicale ou de droite radicale tirerait la meilleure utilisation politique de toutes ces informations ? Parce que finalement, avec un élu à cette présidence, hors les classiques partis d'alternance gouvernementale, on peut aussi se dire que les Français, ils auront l'impression d'être mieux informés, puisqu'on leur cachera moins de choses, que ce sera plus transparent. Mais le risque politique est fort, parce que même si vous avez un droit de réserve quand vous êtes président de la Commission des Finances, il peut y avoir des fuites, comme par hasard, dans la presse. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des fake news, il peut y avoir des pressions, vous me suivez. Et là, évidemment, tout le système tremble un peu sur ses bases, parce qu'un président de la Commission des Finances, il appartient à un parti de gouvernement, j'allais dire, c'est un peu de l'entre-soi. Mais là, si c'est un UPS ou si c'est un RN, c'est un peu plus compliqué. Donc vous le voyez, c'est pas si simple d'élire un président de la Commission des Finances avec une assemblée sans majorité absolue.
Merci bien Éric Revel. Et on va en débattre tout de suite, on poursuit le débat avec Françoise Debois, qui est hilare déjà, Elisabeth Lévy.
Je fais rire Françoise ce matin. Bon.
Non, mais c'est Françoise. Très drôle. C'est très drôle parce qu'il a tout à fait raison. J'aime l'euphémisme d'Éric Revel quand il dit l'entre-soi. Oui, le sentiment que tout le monde se tient par la barbichette quand ce sont des partis. Ce sentiment quand ce sont des partis d'alternance. Didier Migaud, par exemple, a été président de la Commission des Finances, et d'ailleurs, il est devenu patron de la Cour des Comptes. Donc,
Il y en a un plus célèbre chez vous, Françoise. Il y a M. Cahuzac.
Et j'allais vous le dire. Ah bon. Je gardais le meilleur pour la fin. Cahuzac. voyez. Mais. Donc, on est quand même... moi, je prends volontairement des exemples de gauche pour vous dire que, quand même, c'est pas non plus ce qu'on a fait de mieux. C'est quand même pas la panacée absolue. Donc, ce sentiment-là, il est... moi, j'ai quand même tendance à dire que si on n'a pas grand-chose à se reprocher, on n'a rien à craindre, ni d'un président du Rassemblement National. Je fais un peu l'andouille, pour avoir du son. Ni d'un président...
Mais vous allez en avoir, ma chère Françoise.
Non, 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 mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'heure de vérité de toute façon pour les Républicains. La réalité, c'est que on vote en commission, mais ça, je l'ai déjà expliqué dans l'édito. C'est pas tous les députés qui votent. On vote en commission. Il y a 11 voix pour les gens qui écoutaient pas ce matin. Il y a 11 membres. 11 membres pour la NUPES, 9 membres pour le Rassemblement National et 8 membres pour les Républicains. Sur le papier, évidemment, eh bien, Éric Coquerel est élu. Après, les Républicains ont demandé un isoloir pour voter. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec Éric sur les ordres, contre-ordres, désordres. On ne comprend rien aux consignes. Non. Entre Gérard Larcher et Olivier Marleix qui disent
que c'est
un choix cornélien, mais un choix de qui ? Eux-mêmes ont un député. Voilà. Donc, voilà.
Elle nous fait coucou, Elisabeth.
Pardon, Elisabeth.
C'est parce que je vois que l'heure tourne.
Je m'en vais.
Alors, Elisabeth, vous avez écouté très sérieusement tout à l'heure, François.
Alors, j'ai pas dû l'écouter assez sérieusement parce que je l'avoue, j'étais dans le métro et ça coupait un peu.
Bon, alors, en tout cas, vous lirez.
Donc, vous m'avez engueulé pour rien.
Parce que, non, mais si vous voulez, je l'avoue, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette discussion sur faut-il élire un RN ou pas, est-ce que ce serait grave. Mais on ne nous dit jamais pourquoi. Si vous voulez, on ne nous dit jamais pourquoi ce serait plus grave d'élire un RN qu'un autre.
Vous avez
parce
vu que c'est pas ce que j'ai dit, Isabelle.
En fait, moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, en tous les cas, c'est ce que j'ai vu dans la première séance de l'Assemblée, le RN est en train de gagner ses galons de respectabilité. J'ai trouvé qu'il se comportait depuis le début d'une façon très républicaine. Je l'ai dit hier, leur arrivée, j'ai trouvé assez digne, contrastant avec le côté on a gagné un peu débraillé de vos camarades. Oui, Françoise, et je suis désolé. Mais
merci.
C'est-à-dire, on n'arrive pas à l'Assemblée en chantant sur le mode on a gagné. Mais bon, donc j'ai beaucoup de mal à comprendre, si vous voulez, que la discussion soit encore comme il y a 20 ans, comme si on avait affaire au Front National de Jean-Marie Le Pen. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore dire que le RN est anti-système, ni LFI d'ailleurs. Ils sont dans le système aujourd'hui. Mais je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Je n'aime pas la transparence. Pourquoi ? Pas du tout parce qu'on a des choses à cacher ou je ne sais pas quoi, mais vous n'avez d'abord... On ne peut pas exclure les fuites bidons.
Ouais, c'est ce que je disais.
Le fait de jeter en pâture, vous allez prendre des gros contribuables et dire voilà vraiment... même si vous ne mentez pas, si vous voulez, ça c'est une façon très démagogique de jouer avec les sentiments là-dessus du peuple, les riches, etc., que je n'aime pas. En plus, ça n'a rien à voir avec la commission des finances, mais Éric Coquerel, c'est quand même l'homme qui a vendu à Mélenchon le tournant islamo-gauchiste. Et ça, je ne suis pas prête de leur pardonner, ni de l'oublier.
On ne va pas repartir là-dessus, parce qu'on a passé en fait toute l'année à débattre. Je voulais juste réagir sur le fait que on pense qu'on veut de passer des accords ou pas avec le RN. Pour moi, je pense que c'est une ligne rouge, mais les gens ont
mais
le
pourquoi
droit. Mais parce que je pense que ce n'est pas un parti. Je pense que je connais les racines de ce parti, l'écosystème de ce parti. Vous écoutez le discours du doyen de l'Assemblée qui se demande même quelle est la responsabilité de l'OAS dans les couloirs de l'Assemblée. Voilà, le Rassemblement National est né d'une histoire et cette histoire.
Et le Parti communiste aussi.
Mais moi, je m'en moque. Je vote pas communiste. Donc, c'est pas mon sujet. Le Rassemblement National est né avec une histoire et même si Marine Le Pen est peut-être plus light, en tout cas, son écosystème ne l'est pas. Donc ça, c'est mon... Mais ce n'est pas ça que j'ai dénoncé ce matin dans mon édito. J'ai pas dénoncé
ça. C'est la cohérence macronienne, j'ai compris.
Quand on est Emmanuel Macron, qu'on a été élu par deux fois pour faire barrage au Rassemblement National et que 200 des députés macronistes votent pour offrir des vice-présidences au Rassemblement National, c'est ça qui est cynique au dernier degré. C'est ça qui est honteux. Comment voulez-vous, on ne peut pas faire ça. À quel moment il a menti ?
Non, mais attendez.
À quel moment il ment ? En avril, Marine Le Pen, c'était le diable.
Mais d'abord, l'incohérence chez Emmanuel Macron, c'est une seconde nature, donc vous avez raison.
C'est de la duplicité.
Vous avez raison. C'est une seconde nature. Maintenant, que ferait-on s'il ne. Si vous voulez, ça fait 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus quand étaient les élections, que nous nous réjouissons tous. L'Assemblée reflète la diversité des opinions des Français. Et dans le discours de José González, moi je parle du discours qu'il a fait à l'Assemblée, il a dit j'espère que dans cette nouvelle configuration, c'est-à-dire, eh bien, il va y avoir du dialogue plutôt que des invectives. Parce qu'il va bien falloir accepter l'idée fait que nous sommes un pays, comme tous les pays d'ailleurs, où il y a des opinions différentes, parfois tranchées, et exclure une partie de l'électorat, ça ne va pas. Donc je suis d'accord avec vous sur l'incohérence, mais d'un autre côté, qu'aurait-on dit si Emmanuel Macron ne tenait absolument pas compte du vote des Français? Il y a quand même 17% des électeurs qui ont choisi le Rassemblement
National. Juste, moi je vais vous dire, c'est pour moi, c'est un drame absolu, cette façon de faire de la politique du chef de l'État.
Ah
c'est
oui,
un drame
oui,
absolu. Parce que ça ne remonte pas si loin que ça. Quand il a dit, il y a 4 jours à Bruxelles,
oui, personne,
que
les
partis de gouvernement, c'était tout le monde, sauf
RN et LFI.
Et RN. Et que... une grande partie de ces députés votent pour des vice-présidences RN.
Mais attendez, c'est
un drame politique absolu.
Non, mais
parce que les Français ont la mémoire courte, mais là, c'est même pas la mémoire courte. Il a dit ça il y a 3 jours.
Oui.
Et concrètement, 2 jours plus tard à l'Assemblée nationale, mais il en fait un parti respectable.
Mais
moi, j'ai pas de souci avec ça. Et il fait élire 2 vice-présidents RN.
Oui, mais attendez, je vous l'avoue, moi, ce qui m'a horriblement choqué, moi, ce qui m'a atrocement
comme ça.
Voilà.
Puis Françoise
Devoy. Elisabeth Lavie, c'est joli aussi. Les vies, c'est beau, mais la vie.
Elisabeth Lovely.
Oh, merci. Ce qui m'a beaucoup choqué, ce sont les propos. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron à Bruxelles, décernant des brevets de partis de gouvernement. Non, mais sur l'incohérence, je suis complètement d'accord avec vous. Mais comme en même temps. Moi, je ne crois plus un mot de ce que dit Emmanuel Macron à cause de ça, je dois vous le dire. Et ça, c'est un véritable problème.
Voilà.
Ça,
le problème, c'est qui peut croire maintenant ce président. Et si on remonte à il y a deux mois, Marine Le Pen, c'était le diable, c'était l'extinction quasiment de la France, c'était l'effondrement, elle était raciste. Et en fait, Richard Ferrand disait nous avons des convergences avec Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, on dit non, mais écoutez,
on devient Barjot.
Ça s'appelle les injonctions paradoxales. Contradictoire, c'est pour rendre fou les gens.
Mais vous pouvez reconnaître quand même, ma chère Françoise, que le RN, le peuple a décidé de mettre 89 députés RN à l'Assemblée nationale, et que ça aurait été une totale incohérence, voire même un défi démocratique qui n'est pas un poste.
Mais il aurait fallu qu'ils en aient un. Pourquoi en donner deux?
Demandez Emmanuel Macron.
Parce que Emmanuel Macron
aurait été dingue.
Moi, j'ai envie de vous demander, mes amis, vous êtes certainement mieux informés. Il y a un deal derrière. Quel est le deal? Non, honnêtement.
Le deal, c'est la question que je me suis posée.
Ça va être un certain nombre de lois, de les durcir sur la sécurité. Vous savez, Emmanuel Macron pense que de toute façon, il est entouré de crétins, d'incompétents, et que tout procède de lui, et que de toute façon, il va rouler tout le monde dans la farine, et qu'à la fin, il gagnera.
Est-ce qu'il veut bloquer davantage peut-être la NUPES vis-à-vis du Parlement
RN? Je pense que c'est ça. Acte 1, on isole la gauche, l'ensemble de la gauche, les 150, et c'est fait, même si la NUPES a obtenu 2 vice-présidences. On l'isole, ok. Et puis après, on s'occupera après du Rassemblement National. C'est ça l'idée, vous savez, c'est ce que disait Henri Queuil, le petit père Queuil, qui était le roi du radical socialisme, le roi de l'embrouille et de la difficulté. Il disait... Quand tout est compliqué, embrouillez tout. Voilà. Et c'est exactement ce que fait Mme Macron.
Et disait aussi, ma chère Françoise, il n'y a pas de problème qui ne se soit pas résolu par une absence de solution.
C'était la règle de Queuil. Alors ça, souvent, on rigolait parce qu'il était corrézien, on comparait François Hollande à Queuil. Mais je crois que Emmanuel Macron aujourd'hui pratique absolument l'adage de Queuil. Quand tout est compliqué, embrouillez tout.
Mais par contre, j'ai une autre question.
Très rapidement.
C'est que on comprend pas pourquoi.
Très rapidement aussi.
À part, on comprend pas pourquoi la NUPES n'a pas voulu présenter Valérie Rabault, excusez-moi. Là,
elle est vice-présidente, première vice-présidente de l'Assemblée, c'est encore plus prestigieux.
C'est plus prestigieux.
Mais c'était, bien sûr, c'était ça le deal qu'il y avait derrière. On ne pouvait pas trop en parler, mais c'était ça. Elle est première vice-présidente de l'Assemblée, c'est plus qu'une réparation. C'est très prestigieux.
On va terminer avec vous.
Parce que la normalisation du Rassemblement National, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Avec 2 vice-présidences, c'est vrai que là, il y a une vraie normalisation politique. Et c'est une force politique. Mais vous savez, Françoise, quand le petit député, il est petit par la taille, pas par le talent sans doute, Louis Boyard refuse de serrer la main à un député Rassemblement National. Je vais vous dire, pour moi, au-delà de ce qu'on pense, c'est une erreur politique. Pourquoi ?
Parce que
le geste républicain, c'est de serrer la main, et le geste anti-républicain, c'est de la refuser,
cette main.
Et du coup, la NUPES se met dans un corner, et elle offre sur un plateau... Un espèce de brevet de républicanisme avec une main.
Je le comprends.
Vous êtes d'accord ou pas ?
Non, pas du tout. Enfin, j'entends ce que vous dites sur l'analyse. Ouais. Je comprends aussi que la jeunesse a des idéaux. Louis Bouillard, il a
la pandémie
22 ans.
Antiraciste.
Mais non, mais il a 22 ans. Quand il en aura 40, il parlera pas.
Bah alors à ce moment-là, t'es pas député quand t'es pas capable. L'excuse de la jeunesse, ça va bien.
C'est pas une excuse de la jeunesse, c'est qu'il a des idéaux. La jeunesse emmerde encore le Front National. ouais, bah c'est ça. Donc
il a des idéaux qui consistent à montrer sa belle âme. Excusez-moi. Bonjour.
On aura compris. Oh,
tout se passait bien, maintenant on s'engueule.
Bah oui, mais bon, forcément, ça termine toujours comme ça. Voilà.
Mais
bon,
mais ça peut pas être autrement.
En tout cas, c'est un plaisir pour ce débat de vous avoir. On remercie Françoise Degoy qui était avec nous ce matin sur Sud Radio.
Depuis
ciao,
très tôt.
Françoise. Et puis on poursuit les débats dans un instant avec Elisabeth Lévy, Éric Revel, et on parlera de l'affaire Damien Abad. A tout de suite. Absolument. Sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, dans quelques instants on reviendra sur les incendies dans les Pyrénées-Orientales. Vous savez, le feu qui continue de gagner du terrain avec le maire de la commune, Dopoul Perillos, qui sera avec nous, Patrick Sarda. En attendant, 0826 300 300, des appels au standard ce matin. Allô, bonjour.
Chantal qui est avec nous, qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Chantal.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez parler justement de cette affaire Damien Abad, hein, le ministre des Solidarités, puisque cette enquête pour tentative de viol a été ouverte donc par le parquet de Paris. On l'a appris hier soir. Vous vouliez réagir à ce sujet?
Il me semble, si vous voulez, que ce soit l'affaire de M. Abad ou autre, que ce soit M. Darmanin, que ce soit tous ces gens, dès l'instant où il y a un problème d'ordre juridique, ils devraient, de toute façon, quitter le gouvernement momentanément. S'ils sont innocents, eh ben, ils ont toujours la possibilité de réintégrer dans un poste quelconque, parce que dans ce milieu, je pense qu'ils n'ont pas de problème de chômage, ni de disponibilité de longue durée. Donc, je trouve que c'est scandaleux de garder des gens qui, contre lesquels il y a des dépôts de plainte. Mmh. C'est pas normal. Mmh. C'est comme Dupond-Moretti, tous ces gens-là, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû les évincer. C'est scandaleux. Donc, on sait très bien que c'est le copinage, l'entre-soi. Voilà, tous ces gens-là, c'est encore Magou Yanko. Mais je trouve que c'est dommage pour M. Abad. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que c'était quelqu'un d'important à être nommé là où il était, parce que le domaine des handicapés est souvent négligé, et que d'avoir ce monsieur qui, donc, malheureusement connaît bien le problème, ça aurait été une bonne chose. Bon, maintenant, s'il a des casseroles, attendez, on a des gouvernements qui sont de plus en plus pourris, avec des gens qui n'ont aucun sens de la justice, aucun sens du respect, de la moralité. Faut arrêter, quoi, on est dans ça.
Chantal, merci, on va faire réagir justement nos éditorialistes. Alors, de plus en plus pourris, je ne sais pas, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent, il y a de plus en plus de transparence aussi, il y a les réseaux sociaux qui jouent leur rôle aussi peut-être également, et il y a un moment on a des sujets qui étaient tabous, dont on ne parlait pas peut-être à l'époque. Elisabeth Lévy,
alors,
ça vous fait réagir.
Pardon, cher Chantal, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je pense que si on adopte ce principe que dès que quelqu'un a une plainte, il doit être viré, eh bien... on ouvre une boîte de Pandore terrible, parce qu'il suffira tout simplement pour faire tomber un adversaire politique de lui envoyer des plaintes, et on sait très bien qu'en matière sexuelle c'est très facile. Moi, je peux demain aller dire que j'ai rencontré X, Y ou Z et qu'il a essayé de si vous voulez, et déposer une plainte, comme c'est toujours sans preuve au départ. Après il y a la justice travaille, la police travaille, mais au départ il n'y a pas de preuve. Donc je trouve qu'au contraire nous devons... Tout le monde se félicite depuis hier, nous sommes un magnifique état de droit face à la barbarie. Eh bien, pour moi, renvoyer des gens présumés innocents, hein, ça c'est très important, parce que des plaintes sont déposées contre eux, c'est une forme de barbarie, une forme de totalitarisme. En revanche, je pense que ce qui est problématique dans notre pays, c'est que quand quelqu'un est incompétent, il reste à son poste. Et là, vous avez cité M. Dupond-Moretti, c'est pas à cause des plaintes contre, de la plainte contre lui que je pense qu'il aurait dû être renvoyé. C'est pour son incompétence totale au ministère de la Justice.
Chantal, en tout cas, on va faire réagir aussi Éric Revel par rapport à ce que vous disiez, vous, votre avis par rapport à cette affaire Damien Abad, quand on sait aussi les propos d'Elisabeth Borne, qui avait dit le 22 juin... Voilà,
oui, elle s'est piégée un peu elle-même. Bah, bien sûr, elle s'est piégée un peu elle-même. Alors peut-être que le ministre lui a juré, dur comme fer, qu'il ne pouvait pas y avoir plainte puisqu'il n'y avait pas de fait avéré vu de son point de vue. Bon, voilà. Maintenant, moi, je suis un peu plus mesuré qu'Elisabeth sur le sujet. Je comprends la position, et c'est vrai qu'on peut très bien faire tomber un adversaire politique, voilà, même si vous êtes condamné après pour faux témoignage, mais le mal est fait. Ouais. La difficulté aujourd'hui, c'est... Et quand vous en discutez avec des hommes ou des femmes politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Mais ils vous disent, mais qui a envie de faire de la politique aujourd'hui ?
Ouais,
non
ça.
Pas que
ouais.
tout le monde a des ouais, choses à se reprocher, c'est pas ça le sujet, mais vous êtes financièrement, si votre arrière-grand-mère a volé une truite dans un étang, vous êtes quasiment condamnable. Enfin, j'exagère évidemment. Si vous avez eu un comportement hors contexte, qui ne se fait pas, mais hors contexte, hors nouvelle époque autour de la protection des femmes et des gens fragiles, vous êtes condamnable. Donc, déjà, que vous disent, les hommes et les femmes politiques, ils vous disent, mais non seulement c'est des jobs, en fait, assez terrifiants, qui sont pas super bien payés en dépit de ce que pensent les gens. Attendez,
c'est très important de rappeler cela.
Mais oui,
Eric.
Vous gagnez mieux votre vie. Et puis vous avez depuis l'affaire Cahuzac sur la transparence financière. Depuis, en fait, on découpe votre vie au scalpel. Bon, bah voilà. Et je vais vous dire, on va pas donner les noms, mais il y a plein de candidats peut-être très valables qui auraient pu se présenter à l'élection présidentielle et qui l'ont pas fait. Non pas parce qu'ils ont des tonnes de choses à se reprocher, mais parce qu'ils avaient pas envie qu'on déballe leur vie, leurs attitudes. Bon, voilà. Donc en fait, tout ce système décourage aussi. Pardon. Les femmes et les hommes politiques à se lancer dans ce qui devrait être une mission forte de faire vivre la démocratie.
Je vous rappelle juste quand même l'affaire rocambolesque de la secrétaire d'État dont je me rappelle plus le nom.
La francophonie.
La francophonie. Si vous voulez, là, on tombe de sa chaise. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu mal pendant un examen gynécologique et qui maintenant l'accuse de viol. Ouais. Je veux dire, on est chez les cinglés.
Après, on n'a pas tous les éléments.
Non. On n'a pas tous les éléments.
C'est ça le problème.
Mais, vous voyez comment on jette l'opprobre sur des gens. Donc pourquoi est-ce que vous voulez faire de la politique, en fait, quand vous voyez tout ça ? Mais
c'est la grande question, effectivement, que se posent sans doute beaucoup de gens qui veulent s'engager, effectivement. Un grand merci, Eric Revel. Merci à vous, Elisabeth Lévy, d'avoir été avec nous pour ces grands débats.
Merci, Elisabeth.
Matin, très bonne journée à vous.
Et nous sommes ce matin avec Patrick Sarda, maire de la commune d'Opulperillos, ville touchée par les incendies. On rappelle que ces incendies dans les Pyrénées-Orientales et le feu continue de gagner du terrain. Monsieur le maire, bonjour. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur le maire, merci de nous accorder quelques minutes sur Sud Radio ce matin. J'imagine que vous avez peu dormi ces dernières heures avec...
J'ai dormi 2 heures par nuit,
C'est pas beaucoup. C'est l'engagement d'un maire et c'est effectivement très respectable et c'est important aussi d'être là auprès de vos riverains, de vos populations, vos administrés. Expliquez-nous là, à l'heure actuelle, à l'heure où l'on parle, où on en est du côté des incendies.
Voilà, donc la situation semble s'améliorer un peu toutes les heures. Les lisières commencent à être fixées, dont là, pour l'instant, on est dans une phase un peu plus optimiste que ce qu'on a connu, puisque l'incendie a consommé 1201 hectares sur une commune qui en compte 35 000, et ça fait beaucoup quand même. Dont 2 jours d'enfer, on a eu de la chance, on a évacué le centre équestre. On a évacué quelques maisons, certaines masses ont été brûlées, mais le village a quand même été épargné. La tramontane a fait passer le feu juste à côté de chez nous, mais on a eu très peur.
Très peur, avec la solidarité qui a joué, bien sûr, encore une fois.
Je voudrais encore remercier les pompiers qui sont venus de la France pour nous aider, parce que vraiment, ils font un travail formidable. Ils se sont battus dans une guérilla incessante contre l'incendie.
De la peur, de l'inquiétude, on a vraiment été proche du pire, finalement, à certains moments de cet incendie.
Parce que le vent était violent, il était tournoyant, donc on ne savait pas si le village allait être impacté. Donc, vous vous rendez compte de l'angoisse pour mes administrés, est-ce qu'il faut évacuer ou pas ? Bon, finalement, on a eu de la chance.
On parle sur ces incendies, on parle alors d'incendies, alors de feux fixés, maîtrisés. Là, quel terme on doit utiliser, justement, concernant...
Je suis tellement prudent que j'ose pas utiliser.
Oui, bien sûr.
Enfin, pour l'instant, la situation.
C'est très sensible, mais.
À peu près s'améliorer. On a retrouvé de l'électricité, on n'a plus de téléphone, l'eau commence à être à peu près normale. On est quand même dans une phase un peu plus optimiste, disons.
pour vos administrés, quelle est la situation ce matin? Ils sont toujours hébergés ailleurs.
L'électricité, elle leur a donné un petit coup au moral, donc c'est déjà, parce que bon, c'est sûr que sans électricité, c'est compliqué. On a essayé de communiquer, d'aller voir le maximum de personnes, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient sous oxygène, qui étaient en dialyse, quoi, c'était compliqué. On a essayé de les regrouper dans la salle des fêtes, enfin bon, on a essayé de penser et de serrer le lien de notre communauté.
J'imagine que c'est trop tôt, sans doute, Patrick Sarda, mais est-ce que vous avez déjà un début d'idée sur ce qui a pu engendrer un tel incendie, étant donné que, quand même, on en parlait tout à l'heure avec le rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant, il y a eu plusieurs incendies qui se sont déclarés en ce moment.
C'est des incendies qui sont partis en simultané, mais dans la continuité, quoi. Donc c'est un faisceau quand même, c'est un faisceau de présomption qui est quand même un peu inquiétant. Enfin, moi, je me suis rendu le premier sur le début d'incendie. C'était un endroit qui était assez caché, un petit sentier, il fallait le connaître. Ça me paraît un peu quand même. J'ai quand même des doutes. Hein. Ouais. C'est pas un lieu de passage. Le temps était à l'incendie, avec beaucoup de vent, une sécheresse accentuée. Bon, c'était toutes les conditions pour pouvoir déclarer un feu de façon criminelle.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur votre commune hier en fin d'après-midi. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En tout cas, quel message vous avez voulu faire passer, vous?
Bel message, c'est bon. Déjà, moi, je suis viticulteur et j'ai pensé à mes collègues viticulteurs qui bien ont sûr. Été impactés depuis 4 ans avec la sécheresse, le gel, cette année le feu. Bon, déjà, économiquement, c'est pas facile pour eux. Donc, j'essaie de porter leurs paroles. Puis ensuite, bon, les moyens, quoi. Il faut que les moyens vous rendez compte. Autant d'hectares ont brûlé en 2 jours que ce qui a brûlé dans tout le département pendant toute la saison estivale dernière, quoi.
C'est sûr. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes, Patrick Sarda, espérant que vous puissiez dormir un peu davantage ces prochains jours.
Je vais essayer ce week-end peut-être, mais bon, ça fait partie du métier. Hein.
Effectivement, voilà. En tout cas,
bon courage.
Allez,
merci beaucoup.
Hein.
Maire, on le rappelle, de la commune d'Opoul, ville des Pyrénées-Orientales, donc touchée par cet incendie, avec ces nouvelles plutôt optimistes pour la suite. Merci en tout cas à monsieur le maire d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Allez, merci beaucoup.
Et une autre bonne nouvelle, puisque nous avons un gagnant ce matin pour notre jeu, pour le parc Spirou Provence, et c'est Anthony qui est avec nous, qui nous appelle d'Avignon, ce qui est pas très loin.
Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Comment ça va Anthony?
Ben, très bien, je suis très satisfait d'avoir gagné ces places, d'autant plus que mes enfants, on y passait assez régulièrement devant. Ah. Et mes enfants sont toujours tentés à me dire « Oh, ben, papa, quand est-ce qu'on y va ?»
Et ben voilà, c'est maintenant. On va y aller maintenant. Voilà, très bien.
Merci beaucoup.
Parce que vous avez gagné 2 places, 2 adultes, 2 enfants. Donc, on est très heureux de vous offrir ces places. Vous faites quoi dans la vie, Anthony?
Je suis ferronnier.
Ferronnier, c'est des métiers qu'on aime bien, c'est la ferronnerie.
En tout cas,
merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite un bon séjour.
Profitez bien.
Spirou,
profitez pour
à
nous.
Avignon, vous nous enverrez des photos, des cartes postales.
D'accord, volontiers, pas de problème.
Merci mille
beaucoup,
fois,
merci
Anthony.
À vous, bravo.
Merci au parc aussi.
Merci beaucoup et restez avec nous dans un instant. Osons la mer pour faire de la France la première puissance économique. C'est un vrai défi. On en parlera avec un vrai spécialiste, surtout Christian Bucheret sera avec nous, académicien de marine. Et vos appels 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite.